Départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. Je vous emmène avec moi découvrir des personnes et des histoires toutes plus inspirantes les unes que les autres. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de mettre en avant des parcours atypiques, mais surtout de vous montrer que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Mes invités seront peut-être freelance, salariés ou bien chefs d'entreprise. Quoi qu'il en soit, ils ont tout fait pour choisir et parfois construire leur métier qui est devenu une vraie passion.
Aujourd'hui, c'est Marion qui a répondu à toutes mes questions sur son parcours professionnel. Enfin aujourd'hui, pas tellement. Cet épisode a été enregistré le 13 mars, date mémorable à laquelle nous pouvions encore sortir et nous retrouver dans un café. C'est d'ailleurs pour cela que vous entendrez de la musique en fond et surtout des bruits de vaisselle de temps en temps. Puis, le confinement a été annoncé et plusieurs péripéties ont fait que c'est seulement 3 mois et demi après que l'épisode peut enfin sortir. Malgré tout, il reste d'actualité, enfin sauf pour certains détails temporels, mais qui n'ont finalement pas tellement d'importance. Bref, pour revenir à Marion, elle est la créatrice du compte Instagram The Pâtisserie avec un Z. Elle a été salariée pendant 13 ans et après avoir mûri un projet pendant plus d'un an et demi, c'est grâce à une restructuration dans son entreprise qu'elle a pu tout quitter pour se lancer à 100% dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. J'ai adoré cette conversation. Marion nous parle de comment trouver un emploi qui n'a pas de lien direct avec nos études alors qu'on sort tout juste de l'école, de l'importance de garder des bonnes relations avec son réseau, mais également de comment elle a eu son idée et comment elle l'a développée. Enfin, surtout, elle nous raconte ses premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat, ce par quoi elle a commencé, les premières démarches, ce qui peut aider beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous passerez un moment aussi agréable que nous.
Bonjour Marion.
Bonjour Manon.
Comment ça va ?
Bah écoute, super.
Bienvenue sur le podcast. Ravie de faire ta connaissance, on se parle un peu sur Instagram, mais on s'était jamais vu en vrai.
Ça y est, en vrai maintenant.
Et donc, je te laisse te présenter d'abord.
D'accord, super.
Et après, je te demanderai de te décrire en deux mots, juste deux mots.
Deux adjectifs
Par exemple.
Donc je m'appelle Marion, j'ai 41 ans, j'ai deux enfants, j'habite en région parisienne. Et alors deux mots, passionnée et gourmande.
Évidemment, voilà. pour commencer, j'ai choisi des personnes quand même qui restent dans ma passion, la pâtisserie, tout ça. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas.
Ça tombe bien.
Voilà.
Il n'y a pas que ça, je pourrais t'en dire.
Et du coup, passionnée... qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est passionné par juste une ou deux choses ou est-ce que ça implique le fait de, dès que tu entames quelque chose, c'est avec passion?
Oui, alors c'est plutôt ça. Donc je suis passionnée de pâtisserie, mais aussi de course à pied. Ce qui fait un bon équilibre en fait entre manger des gâteaux et les éliminer du coup derrière. Et oui, je pense qu'on peut dire que quand je commence quelque chose, quand j'entreprends quelque chose, c'est toujours avec passion et c'est toujours à fond, parfois trop, et du coup ça veut dire qu'on s'inclut beaucoup et on s'implique beaucoup dans les choses, et un peu à mes risques et périls, mais ouais, c'est plutôt dans ce sens-là de l'entièreté et de la passion. Ouais.
Bon voilà, c'était pour commencer un peu différemment et apprendre à te connaître un peu, mais sinon je vais quand même te demander, quand tu étais petite, quel genre d'élève t'étais à l'école et ce que tu voulais faire plus tard comme métier.
D'accord. Alors, moi, j'ai été élevée, en fait, comme une fille unique, parce que j'ai une sœur qui a 12 ans de plus que moi. Donc, en fait, les aléas de la vie ont fait qu'on n'a pas vraiment été élevés ensemble. Mais beaucoup d'attention sur moi. Et j'étais un peu l'élève qui se mettait beaucoup la pression sur les épaules. Et donc, j'avais des bons résultats. Et c'était toujours absolument vouloir être la première et voilà, la bonne élève, bien sérieuse, qui a très très peur de pas réussir. et je me rappelle, enfin, on m'a rappelé ce souvenir de sortie de CE2 avec mon bulletin à la main, je passe. Alors qu'en fait, c'était juste une évidence pour mon père, mais pour moi, c'était toujours...
un challenge
voilà,
de plus.
Oui, voilà, un challenge de plus. Donc, voilà, donc petite fille plutôt... assez sage, peut-être un petit peu capricieuse parce que le centre de l'attention. Et alors quand j'étais petite, assez tôt, j'aimais bien dessiner, pas colorier du tout, mais j'aimais bien dessiner, même si en fait je dessine pas très bien, mais j'aimais bien ça, et du coup je m'amusais à faire des fausses pubs, et donc le premier métier que j'ai voulu faire, c'est dessinatrice publicitaire.
Ah, c'était voilà. Déjà très ciblé.
Ouais, et en fait ce qui est marrant, c'est que je sais pas si c'est un métier qui existe vraiment, mais moi j'imaginais faire du dessin pour les pubs, voilà.
Donc c'est un peu le métier de graphiste, non ?
Ouais,
je sais pas.
Peut-être.
Maintenant, ça se fait sur l'ordinateur.
Ouais, voilà, mais moi, je faisais des fausses pubs comme ça. Et puis, ça a duré assez longtemps. Et après, à partir de la sixième, j'ai voulu être prof de maths. Un truc vachement moins glamour et vachement moins... comment dire, ça fait moins rêver.
T'avais un prof de maths que t'admirais, du coup
non,
tu voulais
non, même pas. Enfin, globalement, j'aimais beaucoup mes profs de maths parce que j'aimais bien ça. Et donc ça m'a duré quand même de la sixième, cinquième, jusqu'à rentrer en maths sup, quand même.
D'accord, ah oui.
Prof de maths.
Donc,
j'ai encore marqué sur ma petite fiche d'entrée en maths sup quand on demande les écoles qu'on souhaite faire. Donc sans aucun doute sur moi-même, j'avais écrit normal sup. Et je pense que mon prof de maths a bien dû se marrer au premier devoir qu'il a corrigé de moi parce que j'avais pas du tout le niveau. Et donc voilà, mais c'est un peu pour ça que je suis rentrée en prépa après une terminale.
Ouais, donc t'as commencé tes études dans le sens pour faire prof de maths au final.
Ouais, mais du coup je voulais le prof de maths plus, donc celui qui fait normal sup et qui est agrégé, tout ça. Et ben en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que grosse claque après en rentrant en sup. Alors que j'avais eu le bac avec mention bien, enfin ça s'était plutôt bien passé.
C'est ça, on va peut-être recontextualiser, je sais pas si, y a peut-être des gens qui connaissent pas forcément les prépas et tout ça.
Ah oui.
On fait un bac S, à l'époque c'était un bac S, parce que maintenant ça n'existe même plus.
C'est vrai, j'étais la deuxième promo du bac S, voilà, en 96.
Donc un bac S, et après on rentrait en classe préparatoire aux grandes écoles, ce qu'on appelle prépa tout court. Et il y avait plusieurs filières en général, il y a bio, il y a maths, il y a physique,
techno,
il y a même les cagnes, hypocagnes, c'est littéraire quoi.
Et puis il y a éco aussi, prépa HEC.
Oui, voilà. Et donc toi t'es rentrée en maths
supérieur,
maths
P. Ouais, voilà.
Donc c'est la prépa, c'est 2 ans.
Ouais, alors moi je fais 3 ans, parce que je trouvais ça tellement sympa que je suis restée une année de plus, c'est que je me suis dit... les concours 2 années de suite. Mais
pour avoir mieux, en fait, on repasse la deuxième année pour avoir des meilleurs concours.
Bon, il y a des gens qui arrivent du premier coup.
Ouais.
Pas mon cas. En tout cas, j'ai pas eu les écoles que je voulais. Donc, j'ai refait une maths spé. Moi, j'étais en filière maths, mais je me suis rapidement rendu compte que finalement, ce que je préférais, c'était la physique et la chimie. Et donc, je suis rentrée dans une école de chimie.
À quel moment t'as abandonné l'idée de prof de maths?
Peut-être dans la première semaine de maths sup.
D'accord, ok.
Quand j'ai eu ma première note, je crois que ma première note, j'ai eu 6 sur 20.
Ah ouais.
Sur 20, je précise. Ouais. Ma deuxième note, j'ai eu 3. La troisième note, j'ai eu 1.
Et ben, on ne peut que faire mieux maintenant.
Et après, quand on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Il y a une espèce de prise de conscience. Non, je suis quand même passée en SP, donc ça s'est amélioré, mais bon, la moyenne de classe était à 8, hein, donc tout est relatif.
Ouais,
les moyennes des concours sont hyper basses aussi. Mais et du coup, en fin de ma première SP, j'avais que un truc dans les travaux publics, ça me plaisait pas, donc j'y suis pas allée et donc j'ai redoublé ma SP et voilà, rapidement je me suis rendu compte que les maths, je trouvais ça bien, mais j'allais pas avoir un métier qui allait me passionner par rapport à ça. Et alors moi, je suis native de Metz en Lorraine. Et en fait, mon oncle et parrain dirigeait une école sur Nancy, dont j'avais entendu parler évidemment depuis que je suis toute petite, et une école dont il était diplômé. Et bon, bah forcément, en fait, j'ai même pas tellement réfléchi. D'ailleurs, j'ai fait maths sup, maths spé parce que lui avait fait ça aussi et que j'ai suivi un peu. En gros, je m'étais même dit, je m'en rappelle très bien, je savais pas spécialement ce que je voulais faire, mais je me suis dit, je fais le plus dur et on verra bien.
Ouais,
au pire, j'irai à la fac.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Ce qui est un peu pas très sympa pour la fac, mais c'est ce que je me suis dit à l'époque, en fait, vraiment. Parce qu'on n'a pas d'infos sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir. Enfin, c'est assez vague, en fait.
Oui, on n'a pas du tout une idée de l'étendue des métiers qu'on peut faire par la suite.
On avait des présentations d'école, et je me rappelle très bien aussi avoir voulu, suite à une présentation, faire l'école du bois à Épinal. Parce qu'on pouvait faire ses meubles soi-même. En fait, c'était peut-être mon côté créatif qui commençait à pousser quelque part en moi. Et à vouloir prendre un peu plus de place. Et puis on m'avait vite fait comprendre que non. En fait, l'école du bois, c'était pas forcément une super idée. Voilà, j'ai continué. Et puis en fait, j'ai redoublé ma SP pour avoir de meilleures écoles. Et j'ai eu l'école de chimie à Nancy. donc ça s'appelle l'ENSIC, donc industrie chimique. Et en fait, bah, j'ai continué à suivre un peu la voie qui était un peu toute tracée dans ma famille de prépa et rentrer en école d'ingénieur. Et en fait, le déclic vraiment... Bah, tu vas peut-être poser la question après.
Vas-y, raconte.
Le déclic, ça a été vraiment quand j'ai entendu dans une présentation quelqu'un qui avait fait une année césure et qui était allé dans une autre école faire un autre diplôme. Et donc moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, et de faire du management de projet.
D'accord.
Donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec la distillation de pétrole et de la synthèse de produits chimiques, enfin des trucs qui ne me faisaient pas rêver.
D'accord, donc c'était là-dessus ton école, c'était le pétrole, tout
industrie
ça.
Industrie chimie,
ouais, ok. Ouais. Ah oui. Et donc l'école encouragée, c'est... Donc l'école d'ingénieur, c'est 3 ans après
la prépa, ouais.
2 ou 3 ans de prépa. Mmh. On sort de là avec un bac plus 5. Et du coup, pendant cette école, ils encourageaient eux-mêmes de faire une année de césure, ou tu as dû faire le forcing ?
Ils faisaient des propositions, enfin, ils nous expliquaient que c'était faisable, mais en fait, l'année où je l'ai fait, on était 10 sur 100 à le faire seulement.
Ok.
Et même à certains moments, c'était des choses qui étaient un peu faites pour les élèves qui avaient des difficultés, mais moi, c'était vraiment parce que je l'avais choisi, et parce que j'avais des bons résultats à l'école, il n'y avait pas trop de soucis, mais j'avais envie de faire un peu autre chose.
Et comment t'as choisi du coup cet autre diplôme ?
Par en fait, c'était une école qui est aussi à Nancy, et j'avais passé le concours pour y entrer. Et donc j'avais plutôt bien aimé l'approche. Et en fait, le diplôme que eux proposaient, alors ça s'appelait un DESS à l'époque, ça n'existe plus, mais c'est un master 2.
Donc, okay.
C'était un deuxième master 2. Et du coup, le fait que ce soit management de projet en innovation et services, je trouvais ça hyper intéressant en fait comme ouverture.
Ouais.
Donc j'étais la première promo de ce DESS.
D'accord.
Qui bah du coup doit plus exister puisque ça existe plus les DESS.
Ouais. Mais il y a toujours des passerelles de double diplôme et tout ça.
Diplôme comme ça quoi.
Ouais.
Et ce qui était super, c'est qu'en fait je me suis retrouvée dans une promo, on était que 15, mais la moitié venait de la formation continue. C'est-à-dire que c'était des gens qui travaillaient, qui s'arrêtaient 6 mois pour faire reprendre leurs études.
D'accord.
Donc ça fait mûrir quand même relativement vite quand on a, je sais pas, je devais avoir 23 ans et qu'on se retrouve avec des gens qui ont une quarantaine d'années. Ben, en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations et pour eux, ils sont beaucoup plus impliqués aussi dans leurs études parce que voilà, c'est ce moment-là et pas un autre moment.
Ouais.
Ils peuvent pas dire qu'ils vont redoubler ou voilà. Et du coup, quand je suis revenue, donc j'ai fait ce DESS, j'ai fait un stage qui allait avec ce DESS. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon stage d'école d'ingénieur. Et quand je suis revenue en troisième année, qui en réalité ne dure que 6 mois dans mon école, puisqu'on a le stage dessus, j'avais 25 ans, alors que certains élèves de première année, au mieux, rentrent à 20 ans. Enfin,
ouais.
S'ils ont suivi les là, mais il y en a qui rentrent plus tôt parce qu'ils ont des années d'avance.
Ouais.
Donc, en fait, il y en a certains avec qui j'avais plus de 5 ans d'écart. Donc, j'étais complètement décorrélée de leurs préoccupations. Et voilà. Donc, ça m'avait vraiment fait mûrir et ça m'a aussi aidé à savoir ce que derrière je voulais faire, c'est-à-dire pas de la chimie.
Donc du coup, tu reviens en troisième année, tu fais les 6 mois de cours quand même.
Ouais.
Et le stage après, donc c'est un stage de 6 mois aussi.
Ouais.
Et tu le choisis dans la chimie ou dans...
Oui, alors en fait, je l'avais fait avant, parce que nous, on faisait le stage avant la troisième année.
Ah d'accord,
voilà.
Ok.
Donc je l'ai fait, j'ai enchaîné mon stage de DESS et mon stage d'école d'ingénieur dans la foulée. Et oui, ce stage, je l'ai fait en R&D dans la chimie.
D'accord.
Chez Procter & Gamble. Les rois du marketing, et je pense que ça aussi, ça m'a donné des clés. Et en Angleterre, donc super expérience, qui m'a aussi fait beaucoup mûrir, parce que quand on se retrouve 5 mois toute seule dans un pays qu'on connaît pas, en fait, il faut
on est obligé de se débrouiller, voilà.
Je me suis rendu compte de mon niveau d'anglais pitoyable en arrivant. C'était trop tard, parce que j'y étais. Il fallait bien que je me débrouille. Voilà, et en 5 mois, ça m'a bien aidé. Je suis rentrée, je parlais comme Jean-Claude Van Damme, donc c'était rigolo. Mais... Voilà, donc après j'ai enchaîné mes 6 mois et à la suite de ça, j'ai pas cherché de job d'ingénieur.
D'accord.
J'ai cherché un job de commercial.
D'accord. Voilà. Commercial dans quel domaine c'est vague commercial ?
Du coup, ingénieur technico-commercial et je cherchais plutôt dans des domaines en lien quand même avec l'industrie. Donc j'avais postulé chez des. C'était plutôt des postes de grands comptes que je cherchais. J'avais postulé chez Gaz de France, j'avais postulé chez France Télécom, ça s'appelait comme ça à l'époque. Je dis que je suis un dinosaure en fait.
Mais non, pas du tout.
Que j'emploie que des termes qui n'existent plus. Bon, donc chez maintenant Orange. Et en fait voilà, j'avais commencé à chercher. Ça a mis un certain temps parce que j'ai été diplômée en juillet. Bon, juillet-août, il se passe pas grand-chose. Dans courant de l'été, j'étais retournée dans mon école quand même pour dire bonjour dans le labo où j'avais bossé un petit peu. Et là, on m'a dit, on cherche un ingénieur pour faire un petit contrat avec une boîte. Parce que souvent, les boîtes passent des contrats de recherche avec des petits projets avec les écoles. Et donc, pendant 3 mois, j'ai quand même utilisé mon diplôme. Quand même. Et donc, j'ai fait 3 mois de contrat dans l'industrie pharmaceutique pour étudier un truc de mécanique des fluides. Bref, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, voilà, je l'ai utilisé 3 mois, ce diplôme, et j'ai passé dans l'entretien pour être commerciale. Chez France Télécom, j'avais été shortlistée, on n'était plus que 3. J'ai pas eu le poste, mais j'en parle parce que pour moi, c'est important en fait d'écouter les espèces de signaux faibles qu'on peut avoir parfois dans sa vie. Le premier, ça avait été quand j'avais entendu parler de ce DESS, et le deuxième, c'est quand... En fait, je reçois le traditionnel mail qui dit « Nous sommes au regret, malgré tout l'intérêt de votre candidature. » Ben voilà, j'en ai tout un classeur, des lettres comme ça. Et là, bon, ce mail que je reçois qui me dit que j'ai pas le poste. Et quelques jours plus tard, une personne m'appelle et c'était une des membres du jury, une femme, qui m'avait dit « Voilà, on vous a pas donné le poste. Je tenais quand même à vous en parler parce qu'en fait, c'est pas un problème, c'est pas vous. C'est juste qu'il y avait des gens qui étaient plus qualifiés, vous êtes trop junior. » Forcément, je sortais d'école et j'avais pas fait d'école de commerce. Mais néanmoins, je pense que vous êtes faite pour ça. Et ne laissez pas tomber parce que moi, j'étais comme vous il y a 20 ans. Quoi.
Ah, trop bien. Ah, c'est trop bien d'avoir un retour comme ça.
Je sais pas comment elle s'appelait, je me rappelle plus en fait. C'est triste. Ouais. Quoi, mais, parce que madame de chez France Télécom, si tu nous écoutes, merci beaucoup.
Ouais, c'est trop bien, c'est vraiment rare. Enfin, moi, j'y étais il y a encore pas si longtemps que ça à chercher un stage. Mmh. Et en fait, on en a rarement des retours comme ça. Quoi, donc,
C'est pour ça qu'il faut, les faire quand on sent que ça peut peut-être changer un peu le. Enfin, moi, ça a changé. J'étais prête à arrêter de chercher dans ce domaine-là et à retourner vers l'ingénierie. Quoi.
Donc, tu t'accroches.
Ouais.
Voilà. C'est quoi ton premier boulot que tu fais ?
Du coup, mon premier boulot, c'est un boulot d'ingénieur technico-commercial dans une toute petite boîte en région parisienne où il y avait moins de 50 personnes.
Et ça consiste en quoi tous les jours ?
Eh bien, en fait, je vendais de l'instrumentation industrielle, donc des sondes de niveau, des sondes de débit, des pH mètres, des sondes de température à l'industrie.
Ok.
Donc, j'avais tout un fichier client que j'avais récupéré quand même... qui étaient vraiment déjà des clients qu'il fallait entretenir. Et puis, il y avait aussi beaucoup de prospection. Donc, ça pouvait être de prendre ma voiture, d'aller faire les zones industrielles de mon secteur, d'aller voir les boîtes que je ne connaissais pas, de frapper à la porte en disant « j'ai des produits à vendre, est-ce que vous pouvez me laisser le numéro du responsable maintenance ?» Puis de réussir à choper le numéro et ensuite les rappeler, avoir un rendez-vous, venir présenter ma gamme avec ma petite plaquette. Ensuite, faire, si possible, essayer de ressortir avec des demandes de devis. Ensuite, envoyer mes devis, ensuite les relancer, ensuite essayer d'avoir des commandes, ensuite relancer les paiements, s'assurer que tout a été bien livré. Et parfois, j'ai même fait des colis moi-même aussi.
C'est complet, quoi. Enfin,
ouais,
il y a
voilà.
Beaucoup, beaucoup de choses.
C'est le... Je pense que c'est vraiment aussi le côté... J'ai appris vraiment les bases du commerce parce qu'en fait, j'avais aucune notion commerciale. Mm. Hormis que mon père est commercial et que c'est peut-être un peu dans les gènes, j'en sais rien. Mais, et que j'aime bien le lien avec les gens.
Ouais, c'est important. Mais comment tu... En fait, il y a quelque chose qui me... Pas qui me perturbe, mais qui... Je suis très admirative parce qu'en fait, t'avais jamais fait ça. Et t'es quand même allée les voir pour leur dire, voilà, moi je voudrais ce poste. Mm. Mais tu l'avais jamais fait. Comment on fait pour trouver un job dans lequel on n'a jamais travaillé, pour lequel on n'a pas fait d'études, on n'a pas de diplôme, rien ?
Ben, en fait, déjà, on m'avait parlé de ce poste. Et je savais qu'ils avaient déjà pris quelqu'un de mon école. Dans un autre poste, sur un autre secteur. Bon, il se trouve, et c'est drôle, c'est que cette personne, c'est mon mari. Mais qu'à l'époque, on n'était pas mariés, qu'on n'était même pas ensemble. Mais on était copains de promo.
Okay.
Et lui avait eu ce job-là. Et un jour, on s'est vus dans une soirée. On était restés en contact après nos études. Et il me dit, il cherche quelqu'un dans ma boîte. Donc en fait, j'ai postulé et je l'ai eu comme ça, ce job. Mais après, pourquoi ils m'ont aussi donné ma chance, c'est que le patron... est un ingénieur, donc je pense qu'il se retrouvait un petit peu aussi là-dedans. Et après, j'ai accepté aussi de sacrifier mon salaire d'embauche, genre vraiment.
Ouais.
Je pense que j'étais à 30% en dessous de mes copains de promo.
D'accord.
Voilà.
Donc il y a quand même un sacrifice à faire quelque part, voilà. On peut pas tout avoir.
Non. Et ça a duré 2 ans et demi. et toujours de l'importance de garder des bonnes relations avec ses amis, avec les gens qu'on a côtoyés, c'est qu'un jour, une copine de promo m'appelle, et elle travaillait dans la boîte où je travaille aujourd'hui, et elle était commerciale dans le sud-ouest, et elle me dit « on cherche quelqu'un dans l'Est, on ne trouve pas ». Et moi, j'étais dans l'Est de la France. Hein. La boîte pour laquelle je travaillais était en région parisienne, mais j'avais le secteur de l'Est, comme moi je suis de l'Est, du coup okay. Je voyageais beaucoup aussi, c'est un autre sacrifice aussi, il faut vouloir faire 60 000 km par an quoi.
Oui, ouais. Ça fait beaucoup.
Donc, et elle était dans le sud-ouest, il cherchait quelqu'un dans le nord-est, il trouvait pas, elle m'a dit est-ce que tu veux postuler ? Je dis bah oui, de toute façon on est jamais aussi bien pour trouver un job que quand on en a déjà un.
Ouais.
J'avais rien à perdre, donc j'ai postulé. Et puis j'ai eu ce poste dans un grand groupe de l'énergie.
Ok,
voilà. Et donc au bout de 2 ans et demi, bah, finalement, je suis rentrée comme ingénieur commercial. Et là, pour le coup, je suis revenue dans la fourchette normale des salaires des gens qui étaient diplômés en même temps que moi, quoi. Voilà. Et après, voilà, j'étais rentrée dans un grand groupe et donc les promotions se font.
Un peu naturellement.
Naturellement, sur le fait qu'on travaille et qu'on ait des bons résultats. Et voilà.
Donc là, tu es toujours dans cette grande boîte.
Oui, mais pour 15 jours.
ça fait combien de temps ?
Ça fait 13 ans que j'étais
t'as,
dans cette
t'as
boîte.
Fait, t'as fait plusieurs métiers dans cette boîte ?
Oui.
Ou t'as toujours,
non,
t'as changé ?
J'ai fait 5 ans et demi commercial. Itinérante, donc du coup sur l'Est de la France, ce qui est un poste quand même assez long dans une multinationale, mais en 5 ans et demi j'ai eu 2 enfants aussi, donc parce que du coup mon collègue de la première petite boîte donc est devenu mon mari. On a eu 2 enfants, on était basé à Nancy et ensuite, et pour la petite histoire, lui m'a rejoint dans cette fameuse grande boîte aussi. Voilà. Après coup,
chacun son tour.
Voilà, l'un après l'autre, voilà. Et du coup, dans un autre business que le mien, ils vendaient pas les mêmes produits, mais du coup, on était commerciaux tous les deux dans la même région. Et puis, au bout de 5 ans et demi, lui un petit peu moins, on a voulu rechanger et progresser. Donc là, on est revenu en région parisienne avec nos enfants sous le bras. Et donc, pendant 4 ans, j'ai été responsable marketing d'un business sur la France et sur le Benelux. Et donc là, en fait, j'ai enfin bouclé la boucle avec mon année césure où j'avais fait du marketing, où finalement ces envies de publicité, même si le marketing, c'est pas que la pub, mais et d'autant que j'étais en B2B, donc il y a très peu de pub. Mais du coup, là, j'ai vraiment eu finalement fait les choses qui me plaisaient plus.
Donc ça a quand même pris un peu de temps.
Ouais, quand même. C'est vrai que je suis sortie diplômée en 2003 et j'ai pris ce poste en 2012.
Ouais.
Donc même plus de 8 ans.
Ouais. Donc voilà. Il faut s'accrocher, il faut garder espoir.
Oui, oui, et puis c'est surtout que moi, je retourne souvent dans mon école rencontrer les promos en cours, dans des journées métiers et carrière. Et pour moi, c'est important de garder en tête qu'on peut toujours bifurquer et construire ce qu'on a envie de faire. Je ne suis pas la seule de ma promo à faire aussi autre chose que du process, que de l'ingénierie. Ma meilleure amie est aussi commerciale. Et on est de la même promo, et mon mari est commercial.
Ouais.
Bon, on est 3 peut-être sur 100,
mais
en fait, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a aussi des gens qui se sont lancés à leur compte, toujours dans le domaine du pétrole, mais peut-être créé des logiciels. Enfin, il y a plein de possibilités et en fait, c'est quand même des études qui permettent d'ouvrir un large champ des possibles quand on construit en fait son projet.
Ouais. Faut continuer de le construire au jour le jour et puis savoir rester ouvert aux opportunités.
Voilà, oui, en fait c'est ça aussi, toujours saisir. Et ça, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste, voire parfois un peu naïve. Mais du coup, je sais plus qui a dit ça, mais les optimistes, c'est quand même les gens qui ont le plus de statistiquement de chances de saisir les opportunités en fait. Donc il y a plein de fois aussi où je me plante. Hein. Mais sur le lot, il y en a où ça marche.
Oui, c'est ça.
Donc
plus on essaye, plus on a de chance d'y arriver, en fait.
Voilà. Donc, c'est un peu là-dessus que je me base.
Du coup, dans tout ce parcours, il y a un moment où intervient ta passion pour la pâtisserie, parce que c'est de ça qu'on va parler au bout d'un moment.
Ouais. En fait, la passion pour la pâtisserie, elle vient vraiment en fait de mes goûts perso pour le sucré. Et en fait, quand on était à Nancy. Je sais plus si on m'a offert ou si c'est... On a dû m'offrir un cours de macarons dans un pâtissier qui est vraiment chouette à Nancy qui s'appelle Steph. Et du coup, j'ai commencé à en faire un peu plus, à faire aussi des gâteaux en forme de voiture pour mon fils.
Voilà, stéréotype. C'est super marrant. Voilà. La première interview que j'ai faite avec Maciel a fait toujours des gâteaux en forme de voiture pour son fils.
Ah bah, il y a un truc. Je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, elle était vraiment moche. J'avais fait, comment il s'appelle, Flash McQueen. J'ai sculpté 2 kilos de génoise pendant une après-midi pour faire un truc que mon fils n'a même pas reconnu parce qu'en fait, il avait 3 ans et il s'en fichait complètement. En fait, ça a commencé petit à petit comme ça. Et du coup, moi, j'étais quelqu'un qui pâtissait beaucoup, qui regarde beaucoup les émissions de pâtisserie à la télé. J'ai pris des cours avant à Saint-Germain-en-Laye. Il y avait un atelier qui faisait pas mal de cours. Donc, j'avais pris 5 cours là-bas. Je demandais ça pour les anniversaires, d'avoir des cours. Puis voilà, c'était c'est
donc
comme ça que c'est arrivé.
Plus une appétence pour faire soi-même.
Oui, au départ, oui.
Parce que maintenant, tu as ton compte Instagram qui est rempli de bonnes choses que les autres font et que tu vas goûter un peu partout.
Ouais, exactement.
J'ai vu que tu avais ouvert ça le 13 avril 2018. Ouais. T'as vu ? Je me suis renseignée.
Ouais, et en plus, le 13 avril, c'est ma date.
Ah, il se passe quoi le 13 avril ?
Bah, le 13 avril...
C'est un 13 quand même.
Oui, en plus.
Aujourd'hui, on est même vendredi 13.
Ouais, c'est vrai que c'est... Donc le 13, c'est quand même mon chiffre. C'est le jour où tout a commencé avec mon mari.
Oh.
C'est le jour où il m'a demandé en mariage. C'est le jour où j'ai su que j'étais enceinte de mon fils.
Ah oui, il y a beaucoup de choses, effectivement.
Et du coup, délibérément, ce lancement d'Instagram, ça allait tomber en avril, enfin dans cette période. Délibérément, je l'ai mis ce jour-là. En fait,
d'accord.
En disant, je continue de marquer cette date.
De croire en ce nombre 13.
Voilà, et 13 avril.
13 avril.
Donc tout ça, c'est des dates qui se répètent dans ma vie, quoi.
Trop bien.
Voilà.
C'est trop bien. Et donc du coup, ce compte Instagram, et que tu as ouvert un blog aussi en même temps.
Oui.
Tu vas dans les pâtisseries, les grands chefs pâtissiers à Paris, en Ile-de-France. Tu vas goûter, tu nous donnes ton avis.
Exactement.
Comment ça t'est venu, cette idée de faire ça ?
Alors en fait, donc après mon poste marketing dans un des business, j'ai changé de poste et c'est le poste dans lequel je suis. Et là, pour le coup, le match est moins évident et c'est pas forcément un poste dans lequel je me sens très bien. Et il y a toujours eu au fond de moi une petite voix qui me disait « ce serait bien que tu sois à ton compte en fait, lance-toi ». L'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée et où je me suis toujours dit « j'aimerais vraiment bien avoir mon truc à moi ». Et donc dans les phases un peu basses de satisfaction au travail, je me disais toujours « essaye de réfléchir à une idée d'un business que tu pourrais lancer sans quitter ton job, que tu pourrais tester ». Et un jour, en écoutant un podcast... dans ma voiture, en allant au boulot, donc janvier 2018, mais alors je ne sais plus la date exacte, mais...
Le 13.
Peut-être qu'il faudrait que je retrouve, hein. Certes, ça peut se retrouver. Et j'écoutais le podcast Génération XX, que j'aime
que
beaucoup,
j'adore.
Voilà, de femmes entrepreneurs, de femmes qui ont lancé des choses. Ouais, c'est plus forcément des entrepreneurs, c'est un peu plus large maintenant, mais à l'époque...
Ouais.
C'était ça. Et il y a une personne dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui avait lancé l'application qui s'appelait BIM.
Oui.
Qui est en fait un peu une application pour booker des restos dans Paris. Et souvent aussi des restos qu'on n'arrive pas à booker et des places qui se réservent last minute, enfin qui se libèrent, pardon, à la dernière minute. Et en fait, je réfléchis à ça et je me dis, moi je galère toujours dans Paris quand je veux manger des gâteaux. Parce qu'en arrivant en région parisienne, le champ des possibles des gâteaux s'est offert à moi. Et je me suis dit, il y a tellement de choses que j'ai envie de goûter. Sauf que j'ai du mal à trouver ce que je veux parce que je connais pas tout Paris. Et que on connaît les grands, mais les plus petits qui font des trucs très bien, hormis s'ils sont actifs sur Instagram, c'est un peu compliqué de les trouver.
Ouais.
Et je me suis dit qu'il manquait un outil pour ça. Donc ça a commencé à germer dans ma tête. Et j'ai postulé à un stage de 3 jours dans un incubateur. Donc ça s'appelait Paris Pionnière à l'époque, maintenant ça s'appelle Willa. Et ces 3 jours, c'est le Possible Camp, ça s'appelle. Et c'est vraiment 3 jours où on est dans l'incubateur avec d'autres femmes. Alors on présente sa candidature, on est retenu ou pas. Donc déjà j'étais retenue avec mon idée, de ce fameux outil qui aiderait à faire ça. Et puis, du coup, on est confronté à plein de gens professionnels de ce domaine-là. On rencontre des responsables de start-up. On rencontre d'autres femmes avec d'autres projets. Et voilà. Et à l'issue de ce petit stage de 3 jours, On m'a dit, tu devrais peut-être déjà commencer par lancer des réseaux sociaux. Comme ça, tu regardes un petit peu si ça se développe, s'il y a un engouement. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé le compte Instagram The Pâtisserie avec un Z.
Oui.
Voilà.
Donc, il y avait déjà, en fait, cette idée derrière... Tu t'es pas dit je vais lancer un compte Instagram, on verra ce que ça donne. C'est, t'avais vraiment déjà l'idée de ton outil.
Oui, elle est derrière, mais c'est surtout de partager. Et c'est vrai que depuis, j'ai rencontré plein de gens grâce à ce compte. Et vraiment de voir aussi s'il y avait des gens que ça intéressait d'avoir des bons plans sur la pâtisserie. Ouais. Et d'ailleurs, tous les week-ends, j'ai au moins une amie qui m'envoie un message en disant « Qu'est-ce que tu me conseilles dans tel arrondissement ?» Donc maintenant, c'est devenu le truc parce que les gens m'ont vu.
Trop bien.
Bon, j'ai ma carte Mapster aussi.
Ouais.
Il y a certains de mes amis qui la suivent et voilà. Donc aujourd'hui, la solution, elle est en cours de développement. Elle n'est pas tout à fait prête.
On va en parler bientôt.
Mais voilà, c'était ça derrière. Et en fait, après, je me suis complètement prise au jeu de... En fait, c'est sympa de communiquer avec les gens sur Instagram, de découvrir des nouvelles choses, de partager. Et bon, je ne suis pas la première à faire ça. Il y en a plein d'autres.
Ouais.
Voilà, c'est un peu l'idée. Et le blog, au départ, c'était aussi pour voir moi comment je réussissais à parler de tout ça. Et c'est vrai que le blog, j'ai un peu freiné ces derniers temps parce que ça prend énormément de temps, mais ce sera forcément la page qui sera le relais du projet futur, quoi.
Ok. Voilà. Sur ce compte Instagram et sur ce blog, tu as commencé par Yann Couvreur.
Ouais.
Comment tu l'as trouvé? Ça faisait combien de temps que tu étais en région parisienne et comment tu t'es dit, tiens, je vais commencer par Yann Couvreur?
Alors, ça faisait presque 5 ans.
Donc, tu connaissais déjà pas mal de choses.
Ouais. Alors, je crois que c'est le Paris-Brest que j'ai mis en premier. Et en fait, j'adore le Paris-Brest. C'est un de mes desserts préférés. Et c'est le dessert préféré de mon mari. Et en fait, j'adore le praliné. C'est une addiction horrible. C'est-à-dire qu'un pot de praliné chez nous, c'est 2 semaines, quoi. Et on parle des gros pots. Hein.
Les pots d'un kilo.
Ouais, voilà. Alors, je parle pas de la méchante pâte à tartiner italienne. Hein.
Non,
je parle du vrai praliné. Pas juste le truc qui a 3% de noisettes, pas bon.
Ouais.
Donc, un vrai coup de cœur, en fait. Et puis, j'aimais bien aussi ce qui me plaisait beaucoup. J'étais complètement séduite par l'image, enfin, toute la marque qu'il a construite autour de sa pâtisserie. Je trouve que c'est très bien fait, que c'est très malin. Et j'ai aussi mon œil un peu marketeuse. D'observer en fait comment il construit sa communauté, comment tout l'imaginaire qu'il met autour de ça avec le renard.
Ouais.
Voilà. Donc en fait, ça m'a bien plu. Après, il fallait bien faire un choix. Je crois qu'en deuxième, j'ai dû mettre Cyril Lignac.
Je ne sais plus.
Ça doit être le deuxième ou le troisième poste. Ouais. Et parce que j'aime aussi beaucoup, quoi. J'ai mis beaucoup de temps à attaquer Pierre Hermé pour faire un article parce que je me disais c'est tellement un dieu de la pâtisserie que
c'est ça.
J'essaye aussi d'être très vigilante parce que moi je suis personne en fait pour juger, donc j'essaye toujours de bien expliquer que c'est mon goût,
mm-hmm.
que ça n'engage que moi et que ça ne... Si vraiment j'ai détesté, en fait je vais pas en parler.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Je préfère pas. C'est toujours positif. Il y en a où c'est des gros gros coups de cœur et d'autres où c'est j'ai bien aimé, mais ça m'a moins plu. Et puis par exemple, je pense à Yann Couvreur, sa tarte au citron qui est hyper punchy, hyper citronnée. Moi je suis moins fan, mais mon mari a trouvé ça génial. Et donc ça plaira forcément à d'autres personnes.
Oui.
Et je me suis pas dit c'est pas bon, quoi.
Oui, bah oui, oui.
Voilà. Donc, mais c'est vrai que Pierre Hermé, c'était dur. Mais il fallait en parler quand même.
Oui, enfin, c'est ça.
J'ai fait un focus sur sa boutique des Champs-Élysées, qui est en plus c'est un partenariat avec l'Occitane. C'est aussi assez particulier comme approche en termes de boutique et tout. Donc, c'est plus ça dont je voulais parler. Sinon, je savais pas comment l'aborder.
C'est ça. Moi aussi, j'ai fait un peu ça pendant un moment où je donnais des avis sur... Enfin, mon avis sur les pâtisseries. Et c'est vrai que je m'étais attaquée à Pierre Hermé. Sauf que, en fait, moi, j'avais pas du tout aimé son association phare chocolat...
Le Mogador ?
Ouais.
Non.
En fait, je déteste les fruits avec le chocolat.
Ah, c'est un de mes accords préférés.
Et du coup, j'en avais pas du tout parlé parce que je sais que c'est, je sais que c'est super bon.
Ce podcast va s'arrêter ici. Stop.
Non, ne t'en vas pas. Non, mais voilà, je sais que ça plaît énormément de gens. Et c'est vrai que du coup, je m'étais dit, je vais pas en parler parce que je peux pas dire c'est pas bon parce qu'en vrai, c'est pas bon. C'est super bon. C'est juste que moi, j'aime pas. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis.
Enfin, moi, j'aime pas tellement les accords roses. L'Ispahan, par exemple, c'est pas mon...
Ouais, moi, celui-là, je l'ai adoré.
Voilà. Donc en fait, c'est bien, il en faut pour tous les goûts.
C'est ça. Donc si on revient un peu sur ton projet, alors c'est pas encore sorti.
Non.
Tu avais fait un peu une étude en envoyant un questionnaire sur Instagram. Je sais pas à quel point tu veux en parler, raconter ce que ça va être. Si tu peux donner une date de sortie, je sais pas.
Alors, je pense qu'on va essayer de faire des premiers tests après l'été, probablement. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de faire une plateforme qui permettra de mettre en relation les gens qui recherchent des bonnes pâtisseries. Et aussi du bon pain, parce que pour moi, ça va vraiment juste derrière. Enfin, il ne faut pas les dissocier, parce que c'est quand même extrêmement galère de trouver du bon pain aujourd'hui dans la rue, quand on ne connaît pas forcément là où on va, là où on est. Et du coup, les très bons pâtissiers, les très bons boulangers, et de permettre aux gens de faire leurs commandes directement et de venir simplement retirer chez le pâtissier. Donc d'apporter en fait une visibilité à ces professionnels et à ces artisans. Et ça, j'insiste sur le fait que je ne veux pas référencer des gens qui ne seraient pas des artisans, qui ne feraient pas tout eux-mêmes. Et de permettre aussi aux gens de rechercher avec différents critères. Par exemple, quelqu'un qui est intolérant au gluten, de pouvoir d'avoir cette fonction sans gluten, ou aussi quelqu'un qui veut venir déguster sur place, d'avoir aussi l'information à l'avance, de se dire je pourrais m'asseoir parce qu'il y a des places, quoi. Et c'est juste une boulangerie pâtisserie où j'emporte. Voilà, donc c'est ça l'idée. Sous quelle forme, ça c'est en cours de développement. Je suis un peu superstitieuse, j'en parle pas trop. mais c'est vraiment bien avancé, puisque dans quelques semaines, je quitte. Dans 2 semaines, je quitte la société dans laquelle je suis aujourd'hui pour me lancer à mon compte et lancer cette entreprise, quoi.
Et voilà. ils l'ont pris comment là-bas Après, vu que c'est une grande entreprise, il y a peut-être moins d'attaches, ou je ne sais pas, mais comment tu t'es parti? T'as réussi à partir avec une rupture conventionnelle, par exemple, ou tu démissionnes, ou si t'as le droit de le dire?
Oui,
si
j'ai le droit de le dire. En fait, est arrivé le moment où en fait, mon rôle était réorganisé, et où donc j'avais la possibilité de ne pas accepter cette modification de mon poste. Et du coup, d'être éligible à ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi.
D'accord.
Donc de partir dans des conditions...
Encore une belle opportunité.
Voilà. Et en fait, comme ça faisait 1 an et demi que j'avais cette idée en tête, et que je commençais à en parler, à avoir des bons retours de gens qui me disaient « Ah oui, mais c'est exactement ça que je voudrais, parce que moi, je galère toujours. par exemple, je dois amener un gâteau chez des amis dans leur quartier. J'ai pas envie de me le trimballer toute la journée. » depuis chez moi, mais j'ai envie de pouvoir le réserver, et juste avant d'arriver chez mes amis, d'aller le chercher, et voilà. C'est aussi pour adresser ce genre de besoins. Et en fait, ça avait déjà pas mal mûri dans ma tête. Après, c'est quand même pas simple quand on t'annonce au bout de presque 13 ans de boîte que, en fait, tu peux... Enfin, t'es licencié, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais rapidement, je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi. Si je le tente pas là, je le ferai pas. Peut-être la crise de la quarantaine aussi. Il faut. C'est une réalité.
Parce que t'as quand même 2 enfants. Bon, t'as ton mari, du coup, il reste lui dans votre entreprise.
Oui.
Mais comment est-ce qu'on le vit, le fait de se dire là, j'ai un salaire confortable pour vivre avec mes 2 enfants? Et peut-être dans 2 semaines, tu sais pas comment ça va se passer. Enfin, du coup, tu auras le chômage, tout ça.
Voilà, il y a quand même quelque chose qui est bien fait en France, c'est le chômage.
Ouais.
Et puis, comme quelqu'un qui aurait fait une rupture conventionnelle, je pars dans des conditions d'accompagnement, en fait. Donc ça, c'est le côté positif.
Donc, c'est rassurant par rapport au confort de vie.
Disons que c'est un peu comme un saut dans le vide, mais j'ai un parachute. Alors, je sais pas si l'expression parachute est vraiment appliquée, parce que c'est pas un parachute doré quand même, c'est pas à ce point-là. mais c'est des conditions d'accompagnement qui sont vraiment extrêmement correctes. Donc en fait, je pars pas du tout aigrie. Enfin, peut-être que je l'ai été un moment, mais en fait, c'est passé ça. Et j'ai dès le départ dit que je pouvais rester un peu plus longtemps, que j'avais pas d'urgence en fait à partir.
Ouais.
De façon à former la personne qui va reprendre les activités, etc. Et c'est ce que je fais. Donc, de
bonne foi quand même.
Oui, ça s'est très bien passé, en bonne intelligence, et pas de cri, pas de fight, pas de... Non, parce qu'en fait, je suis la personne que je suis parce que j'ai bossé 13 ans dans cette boîte, et que j'ai beaucoup appris, et que c'est une très bonne boîte. Mais c'est plus en adéquation avec mes aspirations aujourd'hui. et mon envie de me lancer. Donc voilà. Bon, j'ai pas toujours été aussi philosophe, hein. J'ai aussi un peu pleuré. Et... Voilà, parce que c'est un gros changement et que je suis pas un bloc de pierre. Mais voilà, c'est d'ailleurs, tout le monde, beaucoup de gens m'ont dit, m'ont conseillé aussi, et me dire voilà, maintenant c'est génial de te lancer et c'est ce que tu veux. Tout le monde l'a perçu en fait.
C'est trop bien.
Voilà, donc advienne que pourra. Mais en tout cas, on fait tout pour que ça se passe bien. J'ai commencé un programme d'accompagnement de start-up à HEC.
Oui, j'allais t'en parler. Ouais.
Et ça a commencé en fait en juillet. Une amie qui l'a fait, qui est aussi une ancienne de la même boîte dans laquelle je suis, et qui se lance à son compte, m'a dit tu devrais postuler, tente en fait, je suis sûre que ça va bien se passer, c'est sûr. Et du coup j'ai postulé un peu, en fait hyper rapidement, sans trop me poser de questions. Et d'ailleurs c'était rigolo parce que je pensais que j'allais avoir, enfin on m'a dit on vous rappelle telle date, et je pensais que c'était juste pour m'expliquer un peu ce que c'était. En fait non, c'était l'entretien. En fait j'étais sur un transat dans mon jardin en mode cool. Et donc, je sais pas si je leur ai dit d'ailleurs à HEC, mais ceci est un message. J'étais hyper cool. Donc j'ai raconté mon projet et tout. Et ils m'ont dit, ok, bah vous passez en comité de sélection en septembre. Ah, d'accord. Donc j'avais passé la première étape en fait, okay. Très cool.
Mais pas de stress.
Ouais, mais c'est là que ça marche le mieux, je crois, ouais. Quand on se stresse pas trop. Bon, pour le comité de sélection, j'étais hyper stressée quand même, comme rarement. Mais là, j'avais préparé mon pitch, il fallait pitcher son projet en 10 minutes. Voilà, c'était du sérieux. Et puis du coup, j'ai été retenue. Et j'ai commencé en octobre. Et du coup, depuis octobre, je suis 3 jours par mois, je suis en cours là-bas pour aborder les business models, business plans, ingénierie financière, droit des sociétés, plein de trucs hyper sympas. Et ouais. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais trop dû faire une école de commerce.
Ah oui. Voilà.
C'est, en fait, c'est ça
tu l'as
que
fait maintenant un peu.
Oui, voilà. Donc, même si je fais pas la grande école, que je n'aurais
pas
de diplôme.
C'est quand même HEC. Oui. Et donc 3 jours par mois, c'est vraiment des cours courts. Oui. Genre tu retournes comme à l'école.
Ah oui, dans un amphi.
Ça fait quoi de retourner à l'école après?
Non, c'est sympa. En fait, on croise des étudiants, mais on n'est pas trop avec eux quand même parce que okay. C'est grand. Et puis on est une promo d'une quarantaine de personnes. La moitié de la promo, enfin la moyenne d'âge de la promo, c'est 38 ans.
Okay.
Donc en fait, il y a des gens qui sortent d'école depuis quelques années. D'autres personnes qui ont vraiment déjà des boîtes super avancées. Moi, je fais partie d'une des rares qui n'a pas encore créé son entreprise.
D'accord.
Mais du coup, on s'entraide vachement sur tous les sujets de... Les statuts, l'aspect juridique, les prêts d'honneur. Voilà, y a beaucoup d'échanges et ça, c'est génial. Les cours sont géniaux et... Et l'échange, la promo est super, quoi. Donc ça, c'était vraiment c'est chouette de retrouver un esprit de promo.
Ah oui. Ouais. En fait, tu te retrouves un peu dans la situation où toi, quand tu avais passé ton deuxième diplôme, où tu étais avec des gens plus âgés qui revenaient à l'école. Là, cette fois, c'est toi qui est plus âgée revient à l'école.
Moi, bon, je suis pas la plus âgée, heureusement. Mais oui, c'est vrai. Et puis, on est tous d'environnements super différents. Il y a des gens qui sont vraiment dans la deep tech. Moi, je suis dans le service, en fait. Donc okay. J'ai pas de brevet, j'invente pas un médicament pour guérir le cancer. Mais ouais. Voilà, on parle de gens qui ont de projets de ce type-là, hein, vraiment.
D'accord, ok.
Donc, mais bon, voilà, on est tous avec des projets différents et du coup, c'est super intéressant.
Ouais, forcément, on apprend beaucoup au contact des autres.
Ouais.
Et pour ce projet, t'es toute seule?
Alors, ouais.
Tu me dis si t'as pas le droit de dire les choses, il y a
pas
de soucis.
Non, j'ai le droit. Je suis pas toute seule en fait. Mais pour le moment, on n'est même pas encore structuré ni associé, okay. Mais on va s'associer. Et aujourd'hui, je travaille avec une développeuse qui travaille dans ce type de solution que j'ai rencontré en fait par le réseau. C'était quelqu'un que je connaissais pas, mais voilà. Et puis après, il y a différentes personnes de mon entourage en fait, d'anciens collègues, des amis. Mon ancien apprenti qui m'aide en fait avec en fait on fait des sessions de brainstorming, des choses comme ça, et qui font avancer et qui du coup font partie de l'équipe, même si aujourd'hui on n'est pas constitué en entreprise, quoi.
Ok,
voilà. Après je serai au départ la seule personne à 100%.
Ok, voilà. Donc là dans 15 jours tu te retrouves toute seule à ton bureau.
Ouais. Mais d'abord je suis en vacances.
Ah oui.
Il faut quand même faire un petit break.
Très bien. Voilà. Et donc, tu te fais des vacances, mais après tes vacances, tu vas te retrouver ou non, toute seule à ton bureau.
Ouais.
Comment t'imagines ce changement. Est-ce que ça va être un changement brutal ou est-ce que déjà tu commences à te mettre des jours précis dans la semaine où tu bosses que sur ce projet ou...
Alors, il va falloir que je m'astreigne à une certaine discipline, car je pense que je pourrais passer ma journée en pyjama devant mon ordi. C'est une possibilité. je sais que je peux le faire. Bon, déjà, le début va être... dépendre du contexte actuel d'école fermée, hein, parce que
oui.
Peut-être qu'on va faire du coworking avec mes enfants à la maison, mais déjà ça va être pas mal rythmé par beaucoup de rendez-vous que j'ai encore, enfin que j'ai toujours à faire, puisque là j'ai encore des rendez-vous de terrain pour affiner le projet et puis aussi pour toute la partie de développement du projet, et puis des rendez-vous type expert comptable, tout ça. Donc ça, je vais me créer une structure comme ça de rythme dans la semaine, et après ces rendez-vous vont devenir des rendez-vous commerciaux de démarchage de clients.
Ouais.
Donc je pense que je vais essayer de faire des jours qui seront dédiés à ça, selon la disponibilité des potentiels clients. Et oui, il va falloir quand même que je m'astreigne à une discipline de « on commence pas à bosser à 10 heures
». Voilà. Bon, après tu peux, tu fais ce que
je
tu veux.
Voir, en fait. Je vais voir, je t'avoue que c'est vrai que je ne l'ai encore jamais fait, donc...
Et travailler avec quelqu'un, tu travaillais déjà en équipe ou c'est,
oui.
C'est un peu... Donc ça va, ça ne te fait pas peur.
Ça fait 8 ans que je travaille dans des équipes virtuelles. C'est-à-dire que ça fait 8 ans que... Non, en fait, même plus. Ça fait en 13 ans de cette boîte, je n'ai jamais eu mon chef dans le même bureau que moi.
D'accord.
Donc avant, j'étais commerciale et mon chef était au siège. Moi, j'étais en région. Et ensuite, j'étais au siège et j'ai eu un chef basé à... aux Pays-Bas, une chef basée en Angleterre, un autre chef basé dans un autre pays d'Europe. De toute façon, j'ai toujours été dans des équipes virtuelles. Donc, entre guillemets, le télétravail dont on entend beaucoup parler en ce moment à cause du coronavirus, c'est pas du tout une découverte pour moi, quoi.
Ouais.
Je l'ai beaucoup fait quand j'étais commerciale, j'étais que en télétravail.
D'accord. Donc même travailler chez toi, au final,
j'ai
ça va être...
Hein.
Voilà. Mm. Donc tu ne vas pas passer ta journée en pyjama.
Non. Non. Et en fait, souvent, à tort, les gens pensent que le télétravail, c'est quelque chose où les gens peuvent un peu glandouiller. En fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'on est, pour moi, beaucoup plus productif parce qu'il n'y a pas de pause café.
Oui, c'est ça.
Voilà. La pause déj, elle se fait souvent devant l'écran. Et c'est, bon, c'est pas une bonne chose, mais c'est la réalité.
Ou alors en 10 minutes parce qu'on est tout seul, quoi.
Oui, voilà. Donc ça va super vite.
Ouais.
Et on est beaucoup plus tranquille que sur un open space, donc on fait beaucoup plus de boulot. Et puis parfois on continue tard le soir. Donc moi je pense qu'on est beaucoup plus productif en télétravail, mais c'est pas une option qui est permise pour tout type de métier, malheureusement.
Oui,
donc,
mais oui, forcément il y en a qui sont.
J'entendais c'est que 25% en fait des jobs qui peuvent vraiment être faits en pur télétravail.
Oui, donc forcément.
Voilà. Après, ce qui manque, c'est le lien. Et effectivement, mais je sais que c'est pas je vais pas avoir du mal à aller vers les gens. C'est pas dans ma nature. Je vais pas rester terrée chez moi. Donc, ce sera important que je continue à avoir du lien. Mais ça, pour le coup, je me fais confiance là-dessus de pas me terrer. C'est vraiment pas ma nature.
Ok. Vous avez déjà commencé à chercher des clients, des gens qui vont, des pâtissiers, des boulangers qui vont se mettre sur cette plateforme. Je sais pas comment on l'appelle.
Bah oui, en fait, j'ai déjà commencé à discuter quand j'ai fait mon étude terrain.
Ok.
Donc, c'est pas mal de gens qui, je pense, pourraient être amenés à devenir clients. En tout cas, qui étaient assez enthousiastes sur l'idée. Donc, bon, maintenant, faut que ça se concrétise.
Ça se lance,
moi aussi, de faire une offre qui soit suffisamment intéressante pour qu'ils l'acceptent, quoi. Mais oui, en fait, c'est des... Vraiment, il y a aucune interview qui s'est soldée par un « non, ça m'intéresse pas ».
Ok, bon voilà,
donc c'est plutôt
bien, c'est encourageant.
Ouais. Ouais, c'est encourageant.
Trop bien.
Ouais.
Bon, je pense que j'ai fait le tour de ton projet, tout ça.
Ouais.
Je sais pas si t'avais d'autres sujets à aborder.
Non,
j'ai
non.
Des petites questions un peu plus rigolotes.
Ok, j'ai peur.
Mais non, pas du tout. Ça va bien se passer. Ça va même être des doubles questions parce que, vu que tu vas goûter beaucoup chez les autres, je vais te demander dans plusieurs situations. Est-ce que tu ferais toi-même ou est-ce que tu irais acheter ? Si
d'accord.
Tu irais acheter, chez qui ?
Oui,
et si tu fais toi-même, quoi ?
Ok.
Voilà. Pour un gâteau pour ton anniversaire de mariage.
Ah, alors je ne prendrais pas la responsabilité de le faire moi-même, je pense que j'aurais trop peur. Ah oui, un truc que je n'ai pas dit, c'est que je passe le CAP pâtissier cette année. Et donc, du coup, je ne ferai pas de test CAP, quoi. Ce genre de truc, parce qu'il peut y avoir des ratés. Donc non, là, je pense que j'irais... J'irai l'acheter. Yann Couvreur, ce serait une bonne option. Ouais, je pense un énorme Paris-Brest.
Ah oui, c'était le dessert préféré de ton mari.
Ouais, voilà. Ça pourrait vraiment être sympa. Ah, il y en a beaucoup que j'aime hein, quand même.
Chez Yann Couvreur.
Ouais. Non, et après
le meilleur Paris-Brest de Paris, du coup, tu dirais que c'est lequel?
Pour moi, c'est Yann Couvreur.
Yann Couvreur.
Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui le trouvent un peu trop riche.
Ouais.
Mais en fait, le faut pas le manger tout seul, le gros.
Non, il est fait pour deux.
C'est pour deux, hein. Si quelqu'un s'était trompé, en fait, c'est oui, c'est riche. Si c'est que pour une personne, mais non. Donc ouais, moi c'est vraiment. Après, j'en ai déjà goûté plein d'autres super bons. Celui de Philippe Contecini est dingue aussi. Et j'ai eu un cours avec lui, enfin une masterclass sur le praliné. Du coup, il avait amené ce Paris-Brest et il était vraiment, vraiment. Vraiment ouais. Incroyable. Donc, je suis sûre que j'oublie des gens. Ça, si t'as d'autres questions,
oui.
J'aurai d'autres occasions.
Pour l'anniversaire de ton prochain enfant, enfin le prochain anniversaire d'un de tes enfants.
Alors là, je ferai moi-même. J'essaye de les faire moi-même. J'ai déjà fait un rainbow cake pour ma fille. c'était l'enfer, mais c'était très joli. Un rainbow cake licorne, évidemment, oui. Normal. Non, pour mon fils, je ferai une tarte au citron. Ça, il aime beaucoup.
Ah.
CAP,
du coup.
Ouais, bah là, ça tombe bien. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont plutôt contents, ils sont plutôt gâtés de ce côté-là. Et pour ma fille, je pense quelque chose à base d'accord Mogador, parce qu'elle adore le chocolat au lait et elle adore le fruit de la passion. Donc, je pourrais essayer de faire un espèce de gros, par exemple, un gros macaron. Ça, j'avais fait une fois, c'était pas mal. J'avais pas fait pour ma fille, j'avais fait pour une autre occasion, mais donc, j'essaye dans la mesure du possible de les faire moi-même.
Pour les enfants.
Ouais, pour les enfants. Ouais. Ouais, quand même.
Ils aiment ça.
Ouais.
Et du coup, oui, j'en avais pas parlé du CAP, mais je le savais. Mmh. Et pourquoi t'as décidé de faire ça?
En fait, alors c'était au salon du chocolat. Je discutais avec quelqu'un qui me dit « Ah, mais tu sais, c'est la dernière année 2020 où on peut le faire sans stage. » Et je crois que le salon du chocolat, c'était genre début novembre et les inscriptions finissaient le 12 novembre.
Ah oui.
Alors en fait, je me suis pas trop posé de questions et je me suis inscrite. Et ensuite, pour la formation, du coup, à HEC, ils proposent... ils ont un partenariat avec l'atelier des chefs. Et du coup, je me suis inscrite comme ça en utilisant mon compte formation.
D'accord, ok. Et
voilà, un truc que tout le monde a quand il a travaillé quelques années.
Ouais.
Du coup, j'avais du crédit et je suis passée... Du coup, je suis la formation en ligne de l'atelier des chefs et... Voilà, et je suis clairement très très en retard puisque les épreuves arrivent bientôt. Mais voilà, je sais que j'ai plein de conseils des gens de l'atelier, du chef en boxe. Et puis il y a une grande communauté quand même sur Instagram de gens qui passent le CAP aussi. Il y a plein de groupes.
Oui.
Donc voilà. C'est ça. Et puis je le tente. Si je l'ai pas, ben.
Mais si, ça va bien se passer, je suis sûre.
Voilà. Au moins, j'aurais régalé tout mon entourage. De brioche. Hier, j'ai fait une brioche, une babka.
Ouais, moi, je crois qu'ils en peuvent plus. C'est les pains au chocolat et les croissants. Ouais,
mais toi, tu le passes aussi?
Je l'ai passé, moi, déjà l'année dernière.
D'accord.
Et donc, je crois que pendant les 3 derniers mois, c'était... Alors, je sais plus, on doit sortir 16. Et ben, c'était 16 croissants ou 16 pains au chocolat toutes les semaines.
D'accord. Bah ouais, moi, ça fait 2 semaines que c'est ça.
Parce qu'il faut s'entraîner et que... Voilà. Bon. Je continue avec mes questions, on a un peu dérivé. Donc, toujours pour un tea time entre amis.
Chez moi?
Peu importe.
Alors, si c'est chez moi,
ouais.
Là, je fais des cookies. J'allais dire, c'est mon dessert signature. C'est un peu prétentieux, c'est juste des cookies. Et en plus, c'est même pas ma recette. C'est la recette de mon ami Laurent. C'est la meilleure recette de cookies du monde, vraiment.
On aura le droit de la voir ou pas?
Peut-être, faut que je vois les droits d'auteur. Mais elle a toujours un franc succès. Après, il y en a plein d'autres qui sont très bons. Mais sinon, si c'est un tea time dans Paris, soit Bon Temps, j'aime beaucoup, vraiment. Parce que le lieu est super beau, parce que les petits... je sais pas si tu as goûté...
J'y suis jamais allée.
Mais déjà, ce sablé est dingue. En fait, tout est à base de ce sablé signature de Bon Temps qui est super, super bon. Et en fait, c'est très déculpabilisant parce qu'on peut prendre que des petits trucs et on a l'impression que c'est rien.
Et au final, voilà. On a trop mangé.
Voilà, on peut goûter plein de choses, puis il y a des choses plus grosses.
C'est bien ça.
Choses, c'est vraiment très, très bon.
Ouais.
Donc ouais, je pense que ce serait ça pour un tea time, mais aussi pour le lieu qui est vraiment très joli.
Très bien. Et ben j'irai sur tes conseils. Pour le dessert d'un repas de famille, mais grand repas de famille, quoi. Pas juste toi et tes enfants, avec un peu plus de famille.
Ouais, je pense... Non, j'essaierai quand même de faire quelque chose moi-même. Soit un gros macaron, ça fait longtemps quand même que j'en ai pas fait. Soit, comme je dois en faire, des entremets.
Ah oui.
Voilà. Et j'en ai toujours pas fait. J'aime pas ça, en fait.
Ah, ouais,
j'aime
ouais,
pas les trucs, les textures mousse et tout.
Moi, je les revendais à mes collègues parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Je pouvais plus les manger. Ah. Alors, je les revendais tous à mes collègues.
D'accord. Ah oui, pour les anniversaires.
Ils m'en achetaient toutes les semaines parce que c'était pas possible, en fait.
Ah oui, tu l'as vraiment beaucoup plus révisé que moi. J'ai flippé, là.
Non, mais en plus, ça se passe très bien. Oui, moi, en fait, je me faisais... Je veux pas te faire flipper.
Tu fais un CAP blanc toutes les semaines.
Toutes les semaines. Je faisais quasiment ça. Ah oui. En fait, j'ai fait ça sur novembre-décembre. En janvier, j'ai pété un câble. J'arrivais plus à rien. C'était pas possible. Janvier-février, j'ai fait quasiment que de la théorie.
D'accord.
Et après, je me faisais que 2 préparations par semaine.
D'accord.
Dont à chaque fois, c'était viennoiserie toutes les semaines. Et puis après, soit une tarte, soit pendant aussi fin février, mars. J'ai fait beaucoup de pâtes à choux parce que c'était ma bête noire et que
Ça pour le coup, ça j'en faisais beaucoup avant déjà. Donc normalement, la pâte à choux, ça devrait bien se passer.
Ouais, ça, mais moi, elle était jamais belle et tout. J'étais même allée chez le chef en boxe pour faire un cours et tout. Mmh. Enfin bref, on n'est pas là pour raconter ma vie. Pour le baby shower de ton ou ta meilleure amie.
Alors, j'aime pas les cupcakes, donc je ferai pas de cupcakes. On n'a jamais fait de baby shower et puis en fait maintenant ils ont toutes des bébés depuis longtemps mais
déjà. Et bah pour l'anniversaire d'un enfant d'une
amie. J'essaierai peut-être plutôt de faire un gâteau assez simple mais avec de la déco sympa. J'ai fait des gâteaux réponse pour ma fille, des gâteaux reine des neiges bien sûr. voilà. Donc c'est pas de toute façon les enfants de manière générale ils s'en fichent un peu de.
Faut que ça soit beau.
Hein, voilà.
Et au chocolat.
Ils redemandent des morceaux de pâte à sucre. Du coup, je pourrais faire quand même. Ou alors des petits sablés glacés.
Ah oui, mignon, trop ça. Bien ça. Ouais,
je ferais des petits... J'aime bien les sablés. J'aime bien les gâteaux. J'aime bien le gâteau, en fait, la pâte. Ça, j'aime pas les entremets.
Oui, il y en a beaucoup moins, effectivement. Mm. Si tu allais te promener dans Paris, qu'est-ce que tu pourrais acheter comme gâteau et que tu ne ramènerais pas à ta famille et que tu mangerais en cachette toute seule? Et là, ils vont t'en vouloir quand ils écouteront ça.
Des macarons Pierre Hermé. Parce que ça, du coup, on peut les manger facilement dans la rue. Ou des bons temps.
Ah bah oui.
Voilà, c'est encore plus facile, les macarons. Ou alors des cookies. Des cookies genre de French Bastard.
Ah, j'y suis toujours pas allée.
Ouais, faut que j'y aille. Il faut. Ouais. Le cookie aussi de chez Boulhomme.
Ok.
Donc Boulhomme, c'est le resto de Julien Dubouet. Ouais. Et son pâtissier Mathieu Dalmé fait vraiment des cookies super bons. Et en fait, ils ont un truc de enfin, c'est pas un snack, mais c'est un resto plus rapide à la Défense. Et on y retrouve ces cookies là. Et à chaque fois que je passe, j'en prends un quoi.
Et ça, je le mange. Travail à la Défense.
Et ça, je le mange au bureau. En fait, je le ramène pas.
Ah oui.
Too late.
Oups. Voilà.
Donc ouais, ça pourrait être ça.
Ton parfum de cookie préféré, du coup, vu qu'on n'arrête pas de parler de cookies.
Alors du coup, c'est moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Voilà. Matcha aussi, c'est pas mal.
Si tu recommanderais... Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Si tu devais recommander qu'une seule pâtisserie à aller goûter à Paris pour quelqu'un qui passe 2 heures à Paris, il va où?
Alors là, je vais froisser tous les autres, tu sais, c'est dur.
Je suis pas gentille.
Non, c'est vrai. J'en ai droit qu'à une.
Une. Alors, et pas Yann Couvreur, parce qu'on
en a
déjà parlé.
On en a déjà parlé. Et puis en plus, je suis pas fan.
Et Pierre Hermé non plus, on a déjà parlé beaucoup.
Dans Paris même.
Peut-être une qui est moins connue à la limite. Une qui mériterait d'être plus connue qu'il l'est peut-être un peu moins.
Il est quand même connu parce qu'il a fait des grandes maisons, mais Kevin Lacotte, dans le 17e, KL Pâtisserie, je trouve que c'est vraiment super ce qu'il fait. Et en plus, on peut manger sur place. On voit le labo.
Trop bien.
Je trouve ça hyper sympa.
Ouais.
Et il est connu, mais pas non plus...
Pas tant que ça, je pense.
Pas tant que ça.
Ouais.
Et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment super bon ce qu'il fait. Et voilà.
Parfait. J'ai pas le droit d'en dire un autre.
Tu veux en dire un autre?
Ouais, après il y a Benoît Castel que j'aime beaucoup aussi. Ah, parce que son livre est super.
C'est
pâtisserie. En fait, c'est vraiment un endroit aussi, plus que juste des pâtisseries.
Et il fait un brunch.
Ouais, qui est top. Avec plein de bonnes choses, avec des trucs compatibles avec les végétariens. Ce qui est impressionnant. Moi, je suis végétarienne.
Ok.
Et c'est pas facile. Ouais. Tous les jours. Donc, ouais. Je citerai ces deux-là.
Ok.
Voilà.
Ça va. Comme ça, je... Et c'est en plus quelqu'un, Benoît Castel. Moi, je l'avais vu au salon du chocolat où il avait
fait
un
truc gentil.
Et adorable et vraiment très drôle. Donc, voilà. Si tu pouvais rencontrer un pâtissier ou quelqu'un que tu admires beaucoup dans le
vrai,
ouais.
Ben Pierre Hermé. Après, s'il y a quelqu'un, enfin, non mais après, je pense que je serais très impressionnée, mais après d'avoir discuté avec avec quelques chefs comme Nicolas Paciello ou
ils sont hyper abordables
en fait. Très gentils et en fait c'est quand même plutôt un peu des gens de l'ombre finalement, et c'est assez récent qu'on les voit beaucoup dans les médias.
Oui.
Et en fait je pense que il faut pas s'en faire toute une montagne finalement.
C'est ça.
Mais ouais, si je pouvais avoir une discussion de 10 minutes avec Pierre Hermé, c'est un message.
Mais du coup, ma prochaine question, c'est pour l'amadouer un petit peu et qu'il veuille bien te discuter avec toi, qu'est-ce que tu lui apporterais comme gâteau ?
Ah, alors moi, je suis Lorraine. Et tu sais que Pierre Hermé est alsacien.
Oui.
Donc, quand même, il y a comme une espèce de lien. En plus, je suis mosellane. Hein, et l'Alsace-Moselle, pour le coup, on est dans le même bateau un peu.
Ouais.
Donc, peut-être que j'essaierais de faire un kouglof. Un truc comme ça. Tu vois, un truc simple. Pas avec de la crème, parce qu'il est pas non plus... Il dit toujours qu'il veut du biscuit. C'est mon côté Pierre Hermé. Et de pas trop aimer les entremets. Donc ouais, un kouglof, peut-être avec quelque chose de différent, revisité, je sais pas quoi. Mais je me dis peut-être que j'essaierai d'aller puiser dans ses racines alsaciennes.
Bonne idée.
Je sais pas, après j'en ai jamais fait, mais je viens de faire des brioches. Donc c'est de la même famille, donc
maintenant.
Normalement...
Une fois qu'on a fait les papiers, on a l'impression qu'on peut tout faire.
Voilà, donc je tenterai un truc comme ça.
Parfait. Eh ben, je te remercie.
Merci à toi.
J'espère que ça a passé un bon moment.
Ouais, c'est super, super sympa de partager. J'espère que ça aura donné envie à des gens de découvrir mon compte et de découvrir d'utiliser ma plateforme quand elle
sortira. Elle sera,
ouais, exactement.
Je mettrai tout ça sur le blog, de toute façon.
Ouais.
Voilà. Puis ton Instagram, tout ça sur le blog, sur Instagram. Les gens pourront tout retrouver.
Super.
Et quand tu sortiras ta plateforme, on mettra les gens au courant aussi. Peut-être qu'on refera quelque chose, je sais pas.
Un grand lancement.
C'est ça, peut-être. Une petite conversation moins longue, mais pour parler du projet en détail.
Ça marche.
Merci voilà, beaucoup. Merci. À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Marion sur son compte Instagram The Pâtisserie avec un Z. Elle est toujours hyper disponible pour répondre et échanger. Si l'épisode vous a plu et si le podcast en général vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour discuter de tout ça sous le pseudo @ingenieusepâtisserie. Vous retrouverez toutes les informations de l'épisode sur le blog ingenieusepâtisserie.com, rubrique podcast Le Départ. Si vous avez changé de vie et que vous voulez raconter votre histoire, vous pouvez m'écrire sur le blog, sur Instagram ou même par mail à podcast.ledépart@ingenieusepâtisserie.com. Voilà, j'en ai fini avec tout mon blabla un peu barbant. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.